One, two, three.
Bonsoir, je suis Mathilde Serrel.
Et je suis Martin Kénéen.
Je suis Kitsou Dubois.
Et moi, Fragan Gelker.
Ping pong. La culture sans limite.
Oh, yeah.
Oui, ce soir, la table de ping-pong est en apesanteur et, disons-le, se casse la gueule.
Avec Kitsou Dubois, chorégraphe de l'apesanteur et chercheuse en danse, elle repousse les limites du plateau et de la gravité. Depuis plus de 25 ans, elle le raconte dans un web-documentaire, L'art de voler, réalisé par Do Brunet et Vincent Gaulier. C'est disponible sur le site du Monde.
Et avec le charmeur, ou plutôt le dompteur de Cordelis, Fragan Gelker, qui affronte en cascadeur le vertige, le vide et la chute, dans son nouveau spectacle, le vide essai de cirque jusqu'au 21 mai au Théâtre Montfort à Paris.
Ensemble, nous parlerons des questions que soulève la gravité et son absence, de leurs expériences dans les airs et de leur valeur commune, le doute.
Mathilde Serrel, Martin Kénéen.
Un petit pas pour un homme, un bond de géant pour l'humanité.
That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Comme Neil Armstrong le 21 juillet 1969, elle aussi fait des petits pas sans gravité. Il y a 25 ans, elle a en effet commencé son travail de chorégraphe et de danseuse par une résidence chorégraphique à la NASA à Houston, Texas. Depuis, elle a accompli 21 vols paraboliques et passé plus de temps à valser en apesanteur que Gagarine. Et puis, elle est redescendue sur Terre pour partager le fruit de ses voyages spatio-temporels avec l'Académie Fratellini, avec le CNES, avec la Patrouille de France et bien sûr avec les spectateurs du monde entier. Et la voici qui mêle aujourd'hui son odyssée personnelle et celle de son dernier spectacle, Attraction plurielle, dans un webdoc, un documentaire disponible sur Internet intitulé « L'art de voler ». Mais avant de nous apprendre à voler, Kitsou Dubois, est-ce que vous nous raconteriez pour commencer la dernière fois que vous avez fait un rêve d'apesanteur ? Parce qu'il paraît que ces choses, c'est monnaie courante chez vous.
C'est monnaie courante, enfin, c'est, je pense, monnaie courante chez pas mal de gens. Ça s'appelle le rêve de vol. Tout le monde ne le fait pas. C'est souvent les enfants. Moi, j'en ai fait beaucoup quand j'étais jeune. Et maintenant, j'en fais beaucoup, mais je suis dans un avion. C'est-à-dire, je suis au milieu de gens, de copains avec lesquels je dîne. Et je monte au plafond et je leur dis, mais venez, venez qu'on discute un peu plus haut. Donc, il y a vraiment quelque chose qui s'est inscrit, mais avec justement l'habitacle de l'avion. C'est-à-dire vraiment la réminiscence de mes expériences à bord des vols paraboliques. Donc, je continue à faire des rêves.
Attention, lui, c'est de la dynamite. Un type à faire sauter tous les verrous formels du cirque, à déborder le chapiteau. Lui, c'est l'underground à 17 mètres de haut. Un cordeliste qui va vous faire oublier tout ce que vous pensiez connaître sur le genre. Il a grandi avec ça, sur le fil, son père artiste de cirque et sa mère danseuse, comédienne et metteuse en scène. Formé à l'École nationale des arts du cirque, puis au Centre national des arts du cirque, collaborateur du metteur en scène hongrois Arpa Chilling, il a créé... avec trois autres cerveaux, enfin deux autres cerveaux, Alexis Auffray et Marussia Diaz-Verbeck, un spectacle d'ascension et de chute sur la corde raide de l'existence, inspiré du mythe de Sisyphe et qui, comme il se doit, évolue inlassablement. Le vide essai de cirque, c'est en ce moment au Théâtre Montfort à Paris. Fragan Gelker, j'ai eu la chance et l'effroi de voir escalader la corde et chuter hier soir. Pourquoi, chez vous, contrairement aux autres numéros du genre, c'est si important de tomber ?
C'est si important de tomber. Je sais pas. Il me semble que le cirque, c'est la tentative de ne pas tomber. Et c'est un spectacle qu'on a voulu traiter de la réalité de ce qu'est le cirque. Et dans la réalité de ce qu'est le cirque, il y a beaucoup de chutes. Et donc, il y avait d'abord cette envie de montrer la chute. Parce que c'est une partie intégrante de notre quotidien en tant que circassien. Et il y avait aussi l'idée que on cherchait d'être vraiment à cheval entre l'attention, l'humour, la réflexion. Et que je pense qu'on rigole jamais autant qu'en voyant quelqu'un se casser la gueule. comme Buster Keaton ou Charlie ou tous ces gens nous l'ont un peu appris. Et... Donc voilà, la chute, je pense, elle opère un peu cette tension, cet effet de réalisme et de concret de ce qu'est le cirque et de ce qu'on vit, et aussi d'humour. C'est peut-être pour ça qu'elle est présente beaucoup dans le spectacle.
Il semble que, je sais pas s'il y a de l'humour quand on est en apesanteur comme vous, dans ces vols paraboliques, donc ces avions qu'on imagine montant et descendant à grande vitesse dans le ciel, Kitsou Dubois. Mais vous, vous avez découvert justement, c'est une des observations que vous avez rapportées de tous ces vols en apesanteur ou en microgravité, c'est l'importance de la peur, de la chute sur la planète Terre, parmi vos contemporains, quand vous daignez les fréquenter sur le plancher des vaches. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de comment la peur de la chute, comment le vertige est sensible quand on est en apesanteur ?
En fait, il n'est pas sensible. C'est très bizarre, c'est que d'un seul coup, on ne chute plus et on se rend compte, et c'est, je rejoins vraiment ce que dit Fragan, c'est-à-dire que sur Terre, on est tout le temps face à cette question de la chute. On a tout le temps peur de tomber, même quand on plie les jambes. Finalement, on retient toujours un peu le fait de tomber. Donc on est toujours face à ça. Et c'est vrai que d'un seul coup, ne plus tomber, ça peut être interprété de plein de façons différentes. Ça peut être très jouissif comme quelqu'un comme moi, ou alors anxiogène, parce que il manque cet élément primordial qui est de se confronter à la masse, au poids et à quelque chose qui résiste. Là, d'un seul coup, en apesanteur, on n'a plus rien qui résiste. Et en fait, on est dans quelque chose de continu. Et du coup, c'est très juste l'histoire de l'humour. C'est pas évident, l'humour en apesanteur, je dirais. Parce que comme on est dans quelque chose de très continu, linéaire et tout, finalement, ce qui est difficile en apesanteur, c'est de créer des ruptures. C'est d'arrêter le mouvement. Tout est finalement... On est concentré sur l'inverse de ce sur quoi on est concentré sur Terre. Et quelque part... Ça se rejoint, c'est toujours un peu les deux extrêmes qui se rejoignent. Mais c'est très troublant, ça change tout de ne plus pouvoir tomber, en fait. Ça change notre rapport à la matière, ça change notre rapport à l'autre, ça change notre rapport à nous-mêmes aussi, puisqu'on n'a pas cette peur, mais on a un peu le sentiment du vide. C'est comme si le fait de ne pas tomber, il nous manquait quelque chose d'essentiel. En fait, c'est la gravité, quoi.
Il y a une expérience dans ce que vous dites du mythe de Sisyphe, justement, puisqu'il y a cet inlassable recommencement, ce mouvement qui ne finit jamais, comme vous le dites vous-même, avec l'apesanteur. Donc on rejoint le travail de Fragan Gelker sur le mythe de Sisyphe. Pourquoi c'est vrai que le cordéliste, contrairement aux jongleurs, aux dompteurs, à d'autres circassiens, lui va se retrouver dans ce mouvement inlassable. Et pourquoi c'est ça qui vous a inspiré à la base, puisque c'est dit clairement à la fin du spectacle qu'il faut essayer d'être heureux comme Sisyphe.
Ouais. Après moi, ce qui m'a vraiment parlé, c'est plus le mythe de Sisyphe que Albert Camus a écrit, oui. Qui est un essai philosophique qui prend sa base sur le mythe de Sisyphe grec, mais qui le déploie et qui l'emmène aussi vraiment ailleurs. Plutôt que le mythe de Sisyphe grec, qui est très basique de montée-descente, qui a effectivement un lien très direct et très simple à faire avec l'acte de faire de la corde, puisque quand on fait de la corde, on monte en haut d'une corde, on fait des figures souvent en descendant, et quand on arrive en bas, on remonte pour refaire des figures, et on se demande souvent un peu pourquoi, mais on le fait et on le refait tant qu'on a de l'énergie et de l'envie pour ça. Et mais donc moi, là où je me suis vraiment inspiré dans ce spectacle, et où nous on s'est inspiré, parce qu'on est trois à avoir effectivement écrit ce spectacle, c'est plus sur ce que nous, en tout cas, on a reçu de la vision Camus a posée là-dessus, qui faisait une parallèle en expliquant que le mythe de Sisyphe, donc grec, antique, etc., c'était une parabole de l'homme moderne et de ce qu'on est aujourd'hui, de la condition humaine. Et ça pose l'absurdité de vivre, l'absurdité de se lever le matin, d'aller au travail sans trop savoir quel est le sens, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment la question du sens. On va plus chasser, cueillir pour se nourrir ou quoi que ce soit. On fait des choses, on sait plus pourquoi, forcément, toujours, etc. Et il faut quand même les faire. Et le cirque, ça a vraiment cette essence-là. Mais je pense que ça va au-delà de la corde, parce qu'un jongleur, finalement, c'est pareil. Il va lancer ses balles pour essayer de les rattraper, en sachant qu'un jour ou l'autre, elles vont tomber. Il va se baisser pour en reprendre, pour en relancer. Et derrière, ça pose effectivement la question pourquoi le faire et est-ce qu'il faut arrêter de le faire? Est-ce qu'il faut y croire? Comment y croire?
Mais vous faites entendre la voix d'Albert Camus dans ce spectacle. On entend à un moment cette idée de plaisir, de joie dans l'insatisfaction. C'était ça aussi qui vous avait parlé?
Pas tout à fait l'insatisfaction, lui. Il cherche vraiment la joie dans l'absurdité, dans la conscience de l'absurdité. il pose un petit peu son verdict. En tout cas, ce que moi je peux en dire, c'est que, de ce que j'en ai compris, c'est pas un texte non plus si simple à comprendre, mais je dirais qu'il...
Ah oui, on continue à lui consacrer des émissions, hein, sur France
Culture. Je dirais qu'il pose comme conclusion qu'il suffit pas de savoir pourquoi on fait les choses pour les faire, il suffit de savoir que c'est absurde et que ça n'a peut-être pas de sens, mais de s'abandonner à cette absurdité-là. Et que ça fait du sens. C'est pour ça, nous, on a, la dernière phrase de son livre qui nous a beaucoup parlé, c'est « La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un cœur d'homme, il faut imaginer Sisyphe heureux ». Donc ça veut dire il suffit pas d'arriver à monter en haut, il suffit pas d'arriver à monter une pierre en haut d'une montagne, il suffit de se battre et d'accepter cette lutte jusqu'à la mort et d'en faire une joie.
Alors je vous propose de passer des sommets des montagnes ou de l'espace en suspension, en apesanteur, et de vous abandonner dans l'eau.
Là, ce qui nous change beaucoup, c'est qu'on n'a pas le poids de l'autre. Donc on se cherche constamment, on est complètement désorienté. Alors c'est finalement super parce qu'on travaille quand même beaucoup en généralement dans la maîtrise, dans savoir où on est, savoir tout gérer de soi-même et de l'autre pour maîtriser chaque mouvement, chaque point de force. Là, c'est sûr qu'il n'y a ni la force, ni l'autre, en fait. Donc, c'est très...
Il y a l'autre, mais il y a plus son poids.
Voilà. Et quand on se touche,
ça a d'autant plus de valeur. Comme il y a cette perte, je sais que quand je te touche là, pouf, tout de suite, on a l'information qui arrive. Et du coup, on y fait d'autant plus attention que quand on est sur nos cordes et que, on est tout le temps en contact. Là, le contact est plus dur. Donc, quand on les rentre, c'est « Oh, il se passe quelque chose, là !»
Il se passe quelque chose dans la piscine où vous avez réuni, Kitsou Dubois, les jeunes circassiennes Jeanne Ragu et Pauline Barbou, qui sont descendues dans les profondeurs avec leurs cordes, parce qu'elles sont cordelistes aussi, comme Fragane Galker, passées par l'Académie Fratellini, où vous avez pu œuvrer et donc les rencontrer, Kitsou Dubois. C'était un extrait de ce web documentaire, donc L'Art de voler, que vous avez coécrit et qui est réalisé par Do Brunet et Vincent Gaulier, qui est disponible donc sur Internet. On les entendait à l'instant parler de la difficulté pour elles qui travaillent en duo, de se trouver, de se rencontrer, de se toucher. Un autre moment dans le documentaire, il est dit que pour être proche, il faut s'accrocher quand on est dans l'eau ou en situation d'apesanteur ou de microgravité. Pourriez-vous nous décrire un petit peu ce travail, cette chorégraphie que vous avez proposé à ces circassiennes dans Attraction plurielle, qui est donc décrit dans ce documentaire?
Justement, ça s'appelle Attraction plurielle, c'est toute la question de l'attraction. Il y avait deux sujets, l'attraction et puis le corps à corps et le duo. Et c'est vrai que dans le cirque, c'est très présent ça, la relation entre les deux, très proche et tout. Et Jeanne et Pauline ont vraiment une relation sur la corde, toutes les deux. Et donc toute l'idée, c'est de partir d'une phrase écrite, donc à la verticale, sur leur corde.
Une phrase chorégraphique.
Une phrase chorégraphique, oui. En mouvement.
Chacun ses mots.
Hein. Voilà, c'est ça, exactement. Donc une phrase chorégraphique écrite, où elle monte, donc sur la verticale. Et donc après, l'idée, c'est d'immerger, de plonger cette phrase, enfin maintenant on dit cette phrase, c'était leur duo à elle, dans l'eau et en vol parabolique et en apesanteur. Donc dans l'eau étant un milieu analogue à l'apesanteur, enfin comme la manière dont je le travaille. Et en fait, on s'est rendu compte que si on mettait les cordes verticales dans l'eau, elles allaient reproduire exactement ce qu'elles font en essayant de s'accrocher, mais du coup, ça n'a aucun intérêt. Et nous, c'était très très intéressant parce qu'en le testant, finalement, ça nous a obligés à basculer l'espace et à mettre les cordes à l'horizontale, parce que sinon, ça ne donnait rien. Et ensuite, toute l'idée, c'est qu'elles savent, par exemple, que Pauline va mettre le pied sur la cuisse de Jeanne, et ensuite, elle va appuyer la main sur l'épaule de Jeanne, et Jeanne va appuyer son genou sur le dos de Pauline. Bon, ça, c'est leur chemin. Mais sauf qu'elles peuvent pas le faire. Donc elles sont dans l'eau et d'un coup, Pauline appuie sur la cuisse de Jeanne et paf, Jeanne disparaît. Donc elle est à la fois dans où je suis moi, c'est-à-dire Jeanne a disparu, j'intègre le fait que Jeanne a disparu, il faut que je récupère mon mouvement pour aller retrouver avec ma main la cuisse de Jeanne. Et ça a été vraiment une découverte complète. Elles le disent très très bien et c'est très beau.
Une nouvelle naissance, disent-elles.
Une nouvelle naissance, c'est-à-dire à la fois de se découvrir soi et de chercher l'autre et finalement le moment où elles le retrouvent, de donner de la valeur à ce moment de retrouvailles, à ce moment de toucher, en fait.
Il y a cette narration qui s'augmente encore plus avec l'écriture du web-documentaire Kitsou Dubois. Vous aimez écrire ailleurs, vous aimez écrire hors des plateaux. Vous allez dans les piscines, vous allez donc sur les façades des usines aussi à une époque. Pourquoi est-ce qu'il fallait comme ça sortir du plateau à un moment ?
Ben, pour moi, la danse, avec ma danse, je vais à la rencontre des milieux, je vais à la rencontre des gens, je vais à la rencontre de la matière. C'est vraiment ma manière de m'exprimer, donc c'est nécessaire de tester, d'expérimenter. Et donc l'expérience de la pesanteur, elle a été fondamentale parce que d'un coup, c'est l'inverse, comme tout à l'heure on en parlait, c'est-à-dire que ça n'a plus rien à voir avec sur Terre, ça décale tout. Donc d'un coup, c'est cette chose absolument merveilleuse de se retrouver dans une situation où on est obligé d'être très présent et très concentré à ce qu'on est, pour comprendre ce qui nous arrive, parce que ça réagit pas comme d'habitude. Et ça, pour moi, c'est un état de présence maximum du danseur, du circassien et tout, de peut-être, on rejoint le Fragane avec cette urgence de la chute où d'un coup, tout le corps est présent et du coup, il existe dans l'espace.
Mais précisément, Fragane Guelker, vous aimez ce décalage dont parle Kitsou Dubois, vous le disiez, changer les habitudes du spectateur au cirque. Il se trouve que le psychanalyste Gérard Wajmann a pu il y a peu être le commissaire d'une exposition d'art contemporain qui s'appelait All That Falls, tout ce qui chute, consacré à la chute au Palais de Tokyo. Et il disait qu'en substance, les œuvres d'art aujourd'hui sont souvent révélatrices d'une civilisation où ça tombe. Il y a des cracks, il y a des crises, tout se casse la gueule. Et ajoute-t-il, ces œuvres, elles rendent intranquilles et c'est précisément leur grandeur. Est-ce que c'est vous aussi quelque chose que vous cherchez de provoquer l'intranquillité chez vous, on sent que ça peut déraper à tout moment, et chez le spectateur.
Bah, c'est assez curieux. Paradoxalement, effectivement, je pense que je cherche... le travail est clairement basé sur la limite avec la chute, etc. Donc je cherche, on pourrait appeler ça, le maximum de l'intranquillité à mon endroit. Qui souvent, au moment où il est vraiment sur la limite, on va dire, crée aussi un centrage absolu et une tranquillité totale qui revient à quelque chose, je pense, qu'on peut partager. Ouais. Une sensation, je pense, de centrage, comme de plénitude, et quelque chose qui s'apparente à la pesanteur, je pense, même si c'est pas une apesanteur, mais c'est une sensation comme ça qui, de personnel, et j'ai l'impression qu'il y a une sensation de vide, de centrage, et aussi de joie, mais aussi de peur. Enfin, il y a vraiment une dualité comme ça où tout se mélange un petit peu, et je pense que c'est un, bon, après, il y a multiples choses qui ont été nourrissantes pour moi dans ce travail. Mais une des choses est la notion de risque et la confrontation avec le risque et la recherche de la méticuleuse point d'équilibre avant la chute et là où ça tient. C'était aussi beaucoup nourri par ce plaisir de... de l'obligation de sa propre puissance, quelque chose comme ça. Je
sais pas si c'est. Et est-ce que c'est aussi l'envie de communiquer au public cet endroit du circassien, c'est-à-dire cet endroit d'existence, de vie, de la présence, parce que c'est pas simple de raconter. raconter au public qui n'est pas spécialement, qui n'est pas acrobate, qui n'est pas danseur, qui ne va pas loin dans son travail corporel, pas si loin. De lui transmettre ça par empathie. Donc il y a aussi cette question qui est importante. Quoi.
Qui, bien sûr, qui pour moi était pour le coup un peu décalée de cette première chose que je dis, mais qui est très proche, effectivement, qui était la question de la vérité. Moi, ce qui m'importait beaucoup avec ce spectacle, c'était de montrer des instants de vérité au public. Et encore une fois, à l'endroit où j'étais très proche de la chute, voire en train de chuter, tout d'un coup, j'ai plus les moyens de jouer une chute, j'ai plus les moyens d'interpréter la chute, je suis obligé de la vivre. Et ça, je pense, c'est vraiment quelque chose qui fait écho aux spectateurs, parce que ça leur envoie à une propre réalité, à sa propre vie, et c'est quelque chose qui, du coup, peut vraiment être... j'espère en tout cas qu'il peut se décaler, et au-delà d'un spectacle de cirque qu'on vient assister, on assiste à une quête un peu existentielle d'un humain sur sa vie, et chaque personne peut se le réapproprier de manière vraiment différente, je pense.
Attention. Thank you. autre métier que celui du sien. D'où la réussite de quel âge? Il y a longtemps qu'il travaille avec vous. Ce métier tout de même, c'est un métier dangereux. Ah, quand même, vous seriez sténodactylo, ça présente forcément de danger.
Des inserts sonores, un vieux poste de radio, du patin roulatile, il y a ça aussi dans votre spectacle Fragan Gelker. Ça se passe donc au Théâtre Montfort en ce moment à Paris. Vous l'avez créé en 2009, il ne cesse d'évoluer. Vous avez voulu l'appeler Essai. Essai sur le cirque, c'est un essai puisque vous essayez effectivement de multiples trajectoires, vous débordez complètement le chapiteau. C'est aussi un essai parce que c'est une réflexion. Au sens de l'écriture, de la réflexion critique. Mais voilà, puisqu'on a beaucoup parlé d'esprit, je voudrais qu'on soit sur le corps et que vous nous racontiez ce que vous faites dans ce chapiteau et comment aussi vous le débordez complètement puisque vous allez jusque au-delà même du toit du chapiteau.
Déjà, c'est un théâtre, c'est pas un chapiteau. Oui. Qu'on a essayé de reconfigurer. Et justement, ça me fait plaisir que tu le nommes chapiteau, puisqu'on a vraiment essayé d'inscrire le cirque autant qu'on a pu dans ce théâtre. Parce qu'on a transformé, on a réaménagé pas mal d'espace pour pouvoir créer un circulaire, on joue là où habituellement le public est assis pour avoir la totalité de la hauteur possible, etc. Donc on a vraiment effectivement eu un grand travail et une grande réflexion de modification de l'espace pour le transformer en cirque, pour transformer ce théâtre en cirque. Et après, dedans, ce qui s'y passe, c'est ça la question, ce que j'en fais. Ce que j'en fais, c'est dur à dire, d'autant qu'on essaye de travailler autant qu'on peut sur quand même l'effet de surprise, parce que je pense que c'est vraiment un spectacle qui est basé sur la surprise aussi, donc j'avais pas envie de trop en dévoiler. Mais pour en dire un petit peu quand même, c'est vraiment un spectacle de cordes, sur la corde. Moi, la corde, j'en ai fait avec mon père qui faisait aussi de la corde, donc j'en fais depuis que je suis vraiment enfant. Et donc c'est un spectacle qui basé sur plusieurs strates, je pense. La base, c'était vraiment mon rapport à la corde, c'est-à-dire mon rapport à l'entraînement, à la réalisation de figures, de choses autour de cet agrès. Et donc ça parle de ça, de ce concret-là, du travail, de cet agrès et du coup de ce qu'est le cirque. Et c'est là où dans les sons qu'on a entendus, c'est des sons de documentaires des années 60 sur le cirque aussi, où des enfants sont des jeunes en train d'apprendre le cirque, sont interviewés. Et nous on a pris que les questions sans donner les réponses. Mais donc de cette première strate qui était mon rapport à la corde, on s'est extrapolé, on est allé au-delà sur une deuxième strate qui était peut-être le rapport au cirque, qu'est-ce qui nous semble être le cirque. Et derrière il y a la question du spectacle qui est encore un peu plus vaste. Qu'est-ce que c'est que le spectacle? Qu'est-ce qui fait représentation? Et c'est là où on est deux au plateau. Donc il y a moi, c'est écrit comme un solo avec une autre personne qui crée vraiment le duo pour le coup, qui est à la base un technicien son et un musicien, et qui du coup joue son rôle de technicien, c'est-à-dire il est en bordure du plateau et il a toutes les actions qui créent le théâtre, qui sont en gros les actions de lumière, de son, de toutes les actions qui permettent de rendre un acte qui pourrait passer sur la question quasiment de la performance en acte de théâtre, en acte de représentation. Et c'est là où, à nos yeux, en tout cas, ça parle de ce qu'est la représentation, de ce qu'est le théâtre. Et là, je dirais la strate d'après, c'est vraiment la strate plus philosophique, existentielle, qui est en lien avec le mythe de Sisyphe d'Albert Camus. Plus d'Albert Camus que le mythe de Sisyphe, ce que je disais au début. Et qui, j'ai l'impression, permet de décoller, d'aller un peu au-delà de tout ça. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que au sein même de la création, c'est arrivé après, c'est-à-dire le mythe de Sisyphe d'abord était juste une nourriture, comme une inspiration, un livre qu'on lisait entre nous mais qu'on voulait pas faire transparaître, et puis petit à petit il s'est imposé comme quelque chose qui participe au spectacle parce que en fait ça nous semblait important que ça aille au-delà de mon histoire et de mon rapport personnel à tout ça, et je pense que c'est là où ça ouvre sur quelque chose de plus vaste, quoi.
Kitsou Dubois, si Fragan Gelker il utilise lui le cirque et la philosophie, s'il n'a besoin presque que d'une corde pour faire exister tout ce spectacle. Vous aimez mêler, c'est notamment le titre de votre thèse, puisque vous avez consacré une thèse à vos expériences de danse en apesanteur. Vous aimez mêler les sciences, les technologies des arts et l'esthétique. Vous allez un peu plus loin que Fragan Gelker dans l'appareillage de vos danseurs et de vos danseuses, en l'occurrence Jeanne Ragut et Pauline Barbou dans Attraction plurielle qu'on voit dans ce web documentaire L'art de voler. Vous pourriez nous parler de ce rapport entre l'homme, ou plutôt donc les femmes, et la machine, et nous décrire un peu tous ces appareillages, ces robots, ces caméras multiples?
Mais en fait, je pense qu'il y a une fascination pour, je dirais, le corps contemporain. C'est-à-dire que le corps qu'on a maintenant, il est quand même très très proche de toutes les techniques, et ça le change, et ça le fait évoluer, ça le fait bouger, et ça fait partie du milieu dans lequel on est. Donc moi, mes expériences, par exemple, en apesanteur, c'est grâce à la recherche spatiale, c'est grâce au fait d'avoir des avions qui permettent au corps humain de pouvoir expérimenter l'absence de gravité avant d'être en orbite. Donc pour moi, ça fait partie du milieu dans lequel on est. C'est important d'y participer. Donc là, et puis il y a ça, et puis il y a aussi le fait que dans ces milieux-là, le public ne peut pas aller. Donc l'image, elle s'est vraiment imposée tout de suite. Et donc après, j'avais une sorte de matériau à la fois de réflexion. Je suis une des premières à avoir, en tant que chorégraphe, expérimenté cette absence de gravité. Donc ça veut dire que j'avais pas de méthode. C'est pas si évident d'être pionnier, c'est-à-dire qu'il y a vraiment les deux
côtés.
Vous avez
été formé notamment à l'école de Cunningham, donc voilà, ça c'était votre méthode appliquée en apesanteur.
Voilà, donc c'était pas très simple, et du coup, il fallait que je m'appuie sur quelque chose. Donc je me suis appuyée sur la neurophysiologie, et donc là j'ai découvert en fait qu'on pouvait vraiment trouver des ponts avec la science et s'en servir, et c'est comme ça en fait que j'ai commencé à expérimenter en m'aidant d'une méthodologie scientifique pour pouvoir me dire, mais... Parce qu'au début, j'avais envie d'aller voler, hein. C'est-à-dire, j'ai pensé devenir astronaute. Je trouvais que c'était un ailleurs absolument merveilleux, une échappée, un endroit où on ne tombait plus, justement. Enfin bon, voilà. Et du coup, ça a été long pour moi d'arriver à digérer tout ça et à me dire, bon, je vais en faire quelque chose sur Terre. Et en fait, la recherche scientifique m'a permis de poser les questions, m'a permis de réfléchir à des questions même tout simplement physiologiques avec le corps, et donc de petit à petit avoir une méthode et de trouver une piste pour pouvoir travailler. Les images ont été fondamentales pour avoir la mémoire, parce que c'est des conflits d'espace-temps, donc on se souvient pas très bien de ce qu'on a fait. Finalement, après, de travailler aussi l'image pour imaginer toutes les sensations que j'avais et que l'image puisse rendre compte de ça. Et puis, c'est comme ça que je suis arrivée au cirque, en me disant, mais moi, il faut que j'occupe le volume du plateau, c'est l'esprit de la danse, mais il faut que ce soit en volume. Donc finalement, la grève, c'est un moyen. Mais toute l'idée, c'est d'oublier la grève et d'avoir des danseurs qui sont en suspension. Donc petit à petit, il y a eu vraiment comme ça un mélange de différentes pratiques artistiques et une nécessité d'aller toujours un petit peu plus loin avec comment recréer le milieu de l'apesanteur sans être en apesanteur, parce que c'est quand même très compliqué d'y aller dans l'eau, avec des capteurs, avec des technologies. Et voilà, et tout ça a fait que je mélange tous ces éléments dans ma pratique.
1, 2, 3.
Vous écoutez Ping Pong sur France Culture, l'émission qui aime vous entraîner dans l'eau, dans l'air et pour finir sur Terre.
Et dans l'espace. On n'a jamais été aussi bien sur Terre que dans l'espace, comme dirait la réclame. C'est à suivre avec nos invités Kitsou Dubois et Fragan Gelker.
Personne ne vous entend crier dans l'espace, mais il est l'heure d'écouter Zoé Sfez et son journal de la culture. Bonsoir Zoé.
Bonsoir Martin, bonsoir Mathilde, bonsoir à tous.
Je vous sens en lévitation là aux côtés de Kitsou Dubois et Fragan Gelker. Vous consacrez ce soir votre dossier Zoé à l'annonce du président François Hollande en ce 10 mai, journée de commémoration de l'esclavage. Il a promis la création d'une fondation pour la commémoration de l'esclavage et de la traite négrière d'ici la fin de l'année. Et on sait d'ores et déjà qu'elle aura pour mission de donner naissance à un musée de l'histoire de l'esclavage à Paris. Une idée réclamée depuis de nombreuses années par de nombreuses associations et qui prend enfin forme.
Oui, alors c'était une journée très particulière, très attendue, très politique, cette journée du 10 mai, puisque c'était la 10e journée, les 10 ans de la création de cette journée, donc journée commémorative de l'esclavage instaurée par Jacques Chirac en 2006, mais aussi les 15 ans de la fameuse loi Taubira, la première votée en 2001, à l'issue de débats très très vifs à l'Assemblée nationale, qui avait enfin reconnu la traite négrière et l'esclavage comme des crimes contre l'humanité. Alors comme chaque année, un rassemblement avait lieu au jardin du Luxembourg à Paris, cette année, en présence du révérend Jesse Jackson, figure éminente du combat des droits civiques aux États-Unis. Et le discours de François Hollande, très attendu, a été long, il a duré plus de 20 minutes. Et voici l'annonce très attendue qu'il a faite.
Comme président de la République, j'ai voulu, depuis 2012, par ma présence, signifier l'attachement que la République porte à cette loi et à cette cérémonie. Et en même temps, à chaque fois, pouvoir franchir de nouvelles étapes. Et je souhaite donner à la mémoire de l'esclavage une institution qui lui manque encore. Le Comité national pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage doit pouvoir trouver un prolongement. Parce qu'il a été un instrument de connaissance, de diffusion de l'histoire de l'esclavage, et il a vocation à se transformer dans une fondation pour la mémoire de l'esclavage, de la traite et des abolitions. Cette fondation réfléchira avec la mairie de Paris à l'édification d'un mémorial aux esclaves et d'un lieu muséographique.
Et dans un appel publié hier, Zoé, plusieurs organisations antiracistes avaient exhorté le président à créer un musée de l'esclavage en France.
Oui, alors c'est un projet extrêmement vieux. Ça fait dans tous les cas 2 ans que SOS Racisme et le CRAN, le Conseil représentatif des associations noires de France, avaient lancé une grande campagne, c'est punchy, pour exiger des réparations et pousser l'État français à avancer encore plus sur cette fameuse question. Campagne où s'étaient engagées plus de 120 associations, elles sont 120 à ce jour, parmi les revendication majeure, la revendication majeure, c'était effectivement la création de ce musée. D'ailleurs, dans leur appel paru hier, ces associations disaient clairement qu'elles attendaient la réponse ou la non-réponse qui serait livrée ce 10 mai. Le CRAN, aujourd'hui, salue une vraie victoire, comme me l'expliquait tout à l'heure son président, Louis-Georges Jetin, que j'ai joint cet après-midi alors qu'il participait au Rassemblement. C'est pour ça que le son n'est pas excellent.
Le fait est qu'il y a en France 12 000 musées, 12 musées du sabot, et 0 musée de l'esclavage et de la colonisation. Alors, il y en a un qui a été construit récemment, bien sûr, en Guadeloupe, mais c'est d'abord aux Français, et pas seulement aux Guadeloupéens, que l'on veut s'adresser quand on parle d'esclavage. C'est une réalité nationale. L'esclavage a été décrété par le Code Noir, qui a été signé à Versailles. La Banque de France est une banque négrière, elle est bien à Paris. Donc, c'est une réalité nationale, c'est pas une réalité des dom-tom. Alors, ce musée, c'est une vieille revendication. On se rappelle déjà que M. Chirac avait demandé à M. Glissant de faire un rapport de préfiguration qui a été enterré sitôt sa publication. Donc vraiment, c'est un serpent de mer, très très ancien, et aujourd'hui les choses sont en train d'aboutir. C'est un combat qui a été très très long, c'est des centaines d'heures à militer, à faire du plaidoyer, à rassembler les énergies, et aujourd'hui, ce résultat, il est là.
Et à la tête de la mission chargée de mener à bien la Fondation pour la commémoration de l'esclavage, oui, eh bien, François Hollande a choisi de nommer l'économiste franco-béninois Lionel Zinsou.
Oui, alors qu'il fut Premier ministre au Bénin et qui dirige depuis quelques mois déjà sa propre fondation dédiée aux liens entre la France et l'Afrique. Un acteur donc déjà très engagé sur ce type de questions et sur lequel les associations comptent beaucoup. Elles demandent aujourd'hui dans une tribune publiée dans le journal Le Monde, eh bien, de mettre en place un programme d'action pour les réparations. Le principe, c'est de dire que commémorer, c'est bien, réparer, c'est mieux. Parmi les revendications, il y aurait la mise en place donc de cette fondation qui, pour les associations, devrait être abondée à la fois par l'État français, mais aussi par les entreprises qui auraient survécu et qui auraient bénéficié de la traite, notamment au XIXe siècle. L'instauration d'un jour férié, le 10 mai, et pas seulement commémoratif. Évidemment, un travail sur les programmes scolaires. Alors, que doit être ce musée? Que doit être cette fondation? Voici ce qu'en dit, ce que voudrait aujourd'hui Louis-Georges Jetin, le président du CRAN.
Ce qu'on peut attendre d'un pareil musée, c'est qu'il raconte l'histoire. Et vraiment, dans sa globalité, bien entendu, et c'est pas là comme ça que nous allons définir ce qu'il doit contenir. Il y aura des travaux scientifiques, rigoureux. Monsieur Zinsou est un homme qui a l'habitude de gérer des fondations. Donc, il est tout à fait habilité à discuter avec d'autres personnes, des mécènes. Je crois par conséquent que le choix est avisé. Et par ailleurs, il faut évidemment comprendre que le musée n'est pas le seul objectif. Il y a, au-delà de ce musée, la nécessité d'une réforme agraire dans l'outre-mer, la nécessité de l'annulation de la dette des pays africains. Donc c'est un premier pas qui en appelle également d'autres à l'avenir.
Voilà, alors le rapport de Lionel Zinsou pour la création de cette fameuse fondation est attendu très bientôt, puisque ce sera dès l'automne 2016.
On passe au bref Zoé avec un avis de chantier.
Le Théâtre National de Chaillot est en travaux et il présentera tout de même 30 spectacles lors de la prochaine saison. Dernière saison présentée par son directeur Didier Deschamps, qui est candidat à un deuxième mandat. « Je suis confiant », a-t-il dit aujourd'hui. Le chorégraphe, dont le premier mandat prend fin donc juste là en juillet. Le théâtre qui a pris le tournant de la danse en 2007 s'appelle Théâtre National de la Danse. Maintenant, sous le mandat de Didier Deschamps, qu'il a à nouveau rappelé, le taux de remplissage du théâtre a grimpé de 77% à 84% pour la saison en cours. Il a par ailleurs lancé des travaux qui valent aujourd'hui 19 millions d'euros pour restaurer l'énorme palais de Chaillot.
Faites circuler, le ministère de la Défense lance un concours de Marseillaise sur YouTube.
L'information est suffisamment insolite pour être donnée. Un concours d'interprétation de la Marseillaise destiné aux jeunes a été lancé sur YouTube par le ministère de la Défense. Chiante ta Marseillaise, ça s'appelle.
Chiante
concours qui vise à réaffirmer, je cite, les valeurs portées par l'hymne national français. En permettant aux jeunes de se le réapproprier, les internautes de 18 à 25 ans sont invités à donc l'interpréter en vidéo. Tous les styles de musique sont tolérés, précise le communiqué. Le gagnant du concours emportera une caméra sportive et le deuxième pourra suivre une formation à la vidéo. Le troisième lui embarquera sur un bateau de la marine. Le concours est ouvert jusqu'au 22 mai, résultat le 21 juin.
La justice allemande a rejeté la requête du président turc Recep Tayyip Erdogan contre un polémiste allemand.
Et même contre un patron de presse. C'est toute l'histoire, rappelez-vous. Nouvelle requête du président turc Erdogan après avoir décidé de poursuivre en justice le poémiste Yann Boerman, qui était auteur d'un pamphlet contre lui. Erdogan voulait poursuivre le patron du principal groupe de presse allemand, Axel Springer, qui lui avait tout simplement témoigné son soutien. Il avait donc pour cela saisi le tribunal de Cologne et demandé qu'un tel soutien ne soit pas possible à l'avenir. Eh bien, il a été cette fois-ci débouté. Le tribunal de Cologne explique qu'il y a un droit fondamental à la liberté d'expression et que les propos de Döpfner peuvent participer à la constitution d'une opinion publique dans le cadre d'un débat.
Ping Pong, c'est sur France Culture.
Magnifique, tu trouves pas?
Quoi?
L'aube. Une merveille.
Vous êtes dans l'espace, vous êtes en apesanteur, vous êtes sur France Culture, dans l'émission Ping Pong, et vous êtes en compagnie de Sandra Bullock dans Gravity, c'est sa voix en français, la version française de ce film d'Alfonso Cuarón. Elle joue le rôle de Stone, la bien nommée, cette femme en apesanteur. On entend quelque chose de votre expérience en un peu moins affolante, je l'espère, au gré des vols paraboliques que vous avez accomplis, vous, la danseuse et chorégraphe Kitsou Dubois, cette expérience que vous restituez dans l'art de voler, donc ce web documentaire qui est disponible sur les internets. Dans ce film d'Alfonso Cuarón, ce qui est assez fascinant, c'est que le point d'appui que cherche cette femme perdue dans l'espace en apesanteur, donc, c'est la parole. Elle cherche à contacter George Clooney, Kowalski, qui a disparu. À un moment, elle entre en contact avec une radio d'un Inuit qui est quelque part sur la planète Terre. Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Quels mots vous servent de point d'appui quand vous êtes en apesanteur, Kitsou Dubois?
C'est une bonne question. Ce serait le mot de la perte. En fait, je suis perdue, et comment je me retrouve? Avec moi-même. Donc c'est ça, en fait, c'est que d'un seul coup, son corps devient fondamental, parce que c'est sa maison, c'est son espace, et il existe très fortement. Et bizarrement, il n'y a plus de poids, c'est-à-dire on pourrait dire qu'il n'y a pas de corps, mais c'est nécessaire de reconstruire un corps, d'essayer de le ressentir par tous les bouts, pour pouvoir se dire qu'on existe. Puisqu'on serait que des yeux, en fait. Et en fait, nous, sur Terre, on n'y pense pas parce qu'il est lourd. Et puis, on le déplace tout le temps, donc il est presque un peu gênant. Et du coup, on a beaucoup les mots. Donc, il faut les deux. Je ne suis pas en train de faire un plaidoyer pour absence de mots et que le corps. Mais c'est vrai que d'un seul coup, on se rend compte que d'avoir les deux, c'est vraiment magique, quoi. C'est vraiment, on est plus grand, on est plus fort, on existe, quoi. Et du coup, je dirais que c'est ça. On est face à la perte, et face à la perte, il faut exister. Et donc l'art de voler, c'est ça, c'est-à-dire prendre du plaisir à voler, c'est pas uniquement de s'abandonner, c'est tout ce paradoxe de se dire on vole, on n'a plus de corps, mais en fait il faut qu'on retrouve son corps, on est perdu, mais on va se retrouver. C'est toute une nouvelle histoire qui a un début, une fin, des tas d'interstices. C'est vraiment l'art de voler, c'est du paradoxe complet, quoi.
Vous aussi, vous êtes accroché à une corde qui lâche, comme Sandra Bullock dans Gravity et Fragan Gelker, dans ce vide essai sur le cirque qu'on voit en ce moment au Théâtre Montfort. Alors peut-être qu'on peut évidemment vous demander ce qui vous vient lorsque vous n'êtes pas en apesanteur, mais en apesanteur grâce à la force de vos muscles et de votre technicité sur l'agré qui est la corde. Effectivement, peut-être un mot, qu'est-ce qui vous vient à ce moment-là?
Moi, je parlerai plus de ce que je disais un peu tout à l'heure. Moi, je cherche un peu les endroits un peu de précarité un peu extrême où plus rien ne me vient et où je suis juste dans la... quand j'arrive à faire des dates où j'ai peut-être assez de peur, assez de... C'est pas de la peur vraiment, mais assez de tension, assez d'intensité pour ne plus penser à rien et être vraiment dans le présent, dans l'instant. C'est les fois où je suis le plus heureux de jouer, je suis le plus heureux d'être sur la corde, je suis plus heureux d'avoir pris aussi les risques que j'ai pris.
C'est une corde verticale, c'est ce vide-là aussi que vous nous présentez, mais on pense forcément à l'horizontalité du funambule. On pense au travail de Philippe Petit qui dit « la créativité, c'est l'illégalité ». Werner Herzog, qui a écrit sur lui, parle de lui comme un conquistador de l'inutile. Et vous aussi, vous vous présentez dans votre spectacle comme quelqu'un qui n'en sait rien.
Ouais,
et qui persévère naïvement. Vous vous sentez un peu en conquistador d'une étoile, d'un absolu dont vous ne savez pas encore grand-chose?
Je ne sais pas si conquistador me parle beaucoup, mais ça me fait penser, Camus, lui, il parle de Sisyphe comme le héros absurde. Et c'est vrai que c'est quelque chose que moi, je peux assez bien m'identifier avec ce spectacle héros absurde. Et c'est complètement ce que je vois chez Philippe Petit aussi. Pour moi, c'est vraiment un héros de l'absurdité excellent, quoi. C'est une des personnes qui a fait les choses les plus héroïques et les plus absurdes qui soient ces dernières années, je pense.
C'est important de ne pas savoir.
De ne pas savoir.
De ne pas savoir avant, de douter, de chercher ce qu'on ne sait pas encore qu'on va trouver.
Je crois que je ne comprends pas la question.
C'est vrai qu'on, dans cette idée de ce texte de présentation, quand vous dites « c'est quelqu'un qui n'en sait rien », on a l'impression que vous ne cherchez ni dans la représentation à exécuter un numéro, ni, on va dire, dans la performance artistique et dans le dépassement de vos limites, à atteindre un but. Vous cherchez ce que vous ne savez pas encore que vous avez trouvé.
Ouais. Ça, c'est, je dirais, le personnage effectivement que j'incarne, c'est vraiment un personnage qui aurait une espèce de grande naïveté, qui comprendrait peut-être pas grand-chose. Et c'est là où on... grâce à ça, je pense, on traite un peu de ce que c'est que le plateau. C'est-à-dire que ce personnage, lui, il sait pas vraiment ce qui se passe, il sait pas pourquoi il est sur scène, il sait pas qui sont ces personnes qui le regardent. Un petit peu comme un fauve au cirque, qui sait pas trop ce qu'il fait là. Et le travail d'écriture de ce spectacle a été de permettre que grâce à la présence d'Alexis, donc qui est musicien et technicien,
Alexis Auffray,
on peut, comment dire, les actions, c'est-à-dire la lumière, les choses très concrètes, très factuelles, très théâtrales, permettent d'écrire et de raconter une histoire, on va dire. Parce que une des contraintes de base, c'était vraiment de parler de la réalité, d'avoir un spectacle le plus réel possible. Et dans cette idée de réalité, il y avait la question de ne pas jouer. C'est-à-dire, moi, j'essaye, et sur scène, on essaye de ne pas jouer et d'avoir toute une succession d'actions qui permettent, grâce à des rythmes et grâce aux actes qu'elles produisent, de raconter une histoire, de jouer quelque chose. Comme pour moi, Buster Keaton a été vraiment une forme de référence sur cette question-là. C'est vraiment quelqu'un qui, pour moi, ne joue jamais rien et juste est un très grand technicien du rythme et des actes qui permettent qu'on se dise tiens, il est en train d'avoir peur, il est en train d'avoir je sais pas, du désir, quoi que ce soit. Alors qu'en fait, si tu regardes vraiment sa tête et ses yeux, on n'est jamais en capacité de savoir qu'est-ce qu'il vit. On voit juste des actes qui se succèdent et qui permettent une interprétation. Et moi, ça me parlait particulièrement parce que j'ai l'impression que le spectacle, aujourd'hui, je crois que ça me touche plus et j'avais vraiment envie de pouvoir travailler et questionner est-ce qu'on peut être touché par la vérité sur scène. Et parce que moi-même, je crois que je suis de moins en moins touché par le fait qu'on me raconte une histoire dont on se met ensemble d'accord entre les acteurs et le public, que c'est une histoire, que c'est faux, et que du coup, il n'y a pas besoin d'y croire. Et en fait, moi, maintenant, je me suis dit, est-ce que c'est possible de se mettre ensemble d'accord, qu'on va essayer de voir quelque chose de réel? Et c'est là où la prise de risque, je pense, elle était intéressante sur ce spectacle pour moi, c'est que je prends des réels risques qui sont vitaux quasiment et qui permettent de se mettre ensemble moi et le public sur quelque chose en fait de réel. On essaye de montrer la réalité et d'en faire un objet poétique, artistique.
Mais c'est quand même finalement c'est l'histoire qui est racontée par ton corps, tes mouvements. C'est tu transcendes la narration avec ton corps. En fait, c'est la question du corps sur le plateau. Aussi beaucoup qui est pas obligé d'être accompagné par une théâtralité, une narration. L'histoire, elle est l'histoire de ton corps en fait et de tes chutes. Enfin, ouais, c'est une question que je te pose parce que j'ai pas vu le spectacle, mais
ben il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. C'est l'histoire du corps. Pour moi, c'est plus l'histoire des actes que l'histoire du corps, parce que finalement, un corps. C'est sûr, c'est le corps qui parle. S'il est tendu, si on voit qu'il est détendu, si on voit qu'il est stressé, on va se raconter tout un tas de choses. Donc c'est vrai que c'est le corps qui parle. Mais avant tout, c'est les actes, c'est la façon d'utiliser. Justement, Radio Cassette, on s'est dit, tiens, si on veut de la musique, il faut que tout le public sache comment la musique est produite. Donc un ordinateur, finalement, c'est trouble, c'est quelque chose d'abstrait. On ne sait jamais tout qu'est-ce qui marche, comment. Et donc un Radio Cassette, c'est simple, on appuie sur play, ça produit de la musique.
Ping-pong. La culture sans limite.
Mais alors Zoé, dans votre radiocassette, celui du disque du jour, qu'y a-t-il, quel acte musical allez-vous poser et comment allez-vous toucher nos corps?
Oh là là, trop de questions et une réponse tellement simple. Un disque aujourd'hui qu'on ne présente plus, d'un homme qu'on ne présente plus. La preuve, on l'a reçu ici à Ping Pong. C'est le nouveau disque de France Culture, n'importe quoi, de Philippe Catherine. Vous vous rendez compte de ce lapsus?
Il est devenu dernier France
album. C'est pas exactement les mêmes initiales, mais
son dernier album s'appelle Le Film. Il est sorti en début d'année. Je rappelle que Philippe Catherine, si vous l'avez raté, c'est un poète, un maître de l'absurde, prosodie inimitable, un grand enfant. D'ailleurs, il y a une
parfois
chanson
en apesanteur aussi.
Tout à fait. Il y a une chanson dans cet album où on sent à la fois qu'il les regarde et qu'il les enfile, les enfants.
Quand on a 3.
Ils ne savent pas vraiment comment ils sont coiffés. On dirait toujours qu'ils sont un peu bourrés. La notion d'argent leur est inconnue. Pour eux, ça n'a pas d'importance d'être nu. Ils peuvent d'un escargot se faire un ami délaissé pour un pissenlit. Ils restent une heure dans leur caca et ça ne les dérange pas. Avoir une grosse tête, des petits bras, être bipolaire, dit proie. Les enfants de moins de 3. C'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous. Au cimetière, ils se remplissent les poches de gravier. Quand autour du mort, on est tous à pleurer. Ils ne parlent jamais, ni d'avenir, ni de passé. D'ailleurs, ils ne savent pas conjuguer. Ils comprennent des choses qu'on ne comprend plus. Ils savent des choses qu'on ne sait plus. Les enfants de moins de 3 ans, les enfants de moins de 3 ans, les enfants de moins de 3 ans, les enfants de moins de 3 ans. C'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous, c'est pas comme nous. Ils disent c'est beau d'une bouteille en plastique. C'est vrai que c'est beau les bouteilles en plastique.
C'est vrai que c'est beau, les bouteilles en plastique. Philippe Catherine, 3 ans, issu de son dernier album, Le Film. Et sachez que Philippe Catherine sera en concert dans ce bâtiment flottant qui s'appelle Le Flot à Paris, en bas du pont Alexandre III. Il est en concert à partir de ce soir, mais il sera quasiment jusqu'à la fin mai, puis ensuite en tournée à peu près partout en France. Vous le retrouvez aussi dans Le Figaroscope, notre partenaire culturel, qui est en kiosque dès demain mercredi.
Merci.
Dès aujourd'hui, d'ailleurs, je dis des bêtises.
Zoé, vous dites pas tant de bêtises que ça, on en aura la preuve demain.
Ping-pong. Et c'est déjà fini.
Et c'est très grave pour parler de gravité. Merci beaucoup à tous deux, Kitsou Dubois et Fragan Gelker. Kitsou Dubois, donc on peut vous retrouver sur les internets dans un espace aussi en apesanteur. Hein. C'est le webdoc L'Art de voler, réalisé par Do Brunet et Vincent Gaulier, autour de votre carrière, de vos expériences, de vos sensations et de celles de Jeanne Ragu et Pauline Barbou, cordéliste dans votre nouveau spectacle, donc Attraction plurielle. Quant à vous, Fragan Gelker, le vide essai de cirque, c'est jusqu'au 21 mai au Montfort, à Paris, et puis en tournée ensuite.
Ouais, on fait une tournée, mais pas très française avant.
Ah bah bravo, vous avez raison.
Le ping-pong est une envolée radiophonique qui se vit en équipe et qu'à l'équipe, à la rédaction Aïssa Touendoy, Hélène Delis et Mathilde Cadreau, à la réalisation et la programmation musicale Thomas Beau, à la prise de son ce soir Edvard Rubinstein et Élise Le.
Le ping-pong se pratique lui aussi sur le réseau interconnecté sur franceculture.fr où cette émission est disponible pour l'éternité et un jour. Mais quid de notre beau lendemain, Mathilde ?
Demain, de l'écriture déviante, du théâtre transgressif avec Marina Devant et Stanislas Nordet.